L'Église est une famille. Et dans la famille, on se soutient. Amen. On se fortifie, on s'encourage. Voilà, j'ai entendu tout à l'heure un don spirituel, c'était à propos du doute. Vous avez entendu comme moi ? Eh bien, c'est bien parce que c'est quelque part dans le thème du message de ce matin. Vous savez, serviteur de Dieu, nous on demande des signes. Seigneur, montre-moi que je suis bien dans le coup, que c'est bien ta pensée. Et puis quand on entend le mot qu'il faut, eh bien, tout va bien. Allez, ouvrez avec moi la deuxième lettre de Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 1er. On va lire 14 versets. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été maintenant manifestée par l'apparition de notre Seigneur Jésus, qui a détruit la mort, mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et à cause de cela, je souffre ces choses. Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, me retient dans la foi et dans la charité, donc dans l'amour, qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Parmi les besoins fondamentaux de l'homme, celui de la sécurité, eh bien, il figure en bonne place, bien sûr, juste après, eh bien, les besoins physiques et vitaux. Le Seigneur, nous savons, a pourvu en toutes choses. Donc, justement, pour la sécurité, eh bien, il y a déjà pourvu. Cela fait partie de ce qu'on appelle la guérison intérieure et de la possession également de l'équilibre spirituel et psychologique. En considérant les choses du point de vue, je dirais, strictement psychologique, la pyramide des besoins, eh bien, elle s'établit de la manière suivante. Il y a les besoins organiques et physiques, de base, bien sûr, c'est l'oxygène, c'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est l'abri, c'est l'activité, c'est le repos, et toute une liste est là. Il y a également le besoin de sécurité, c'est en dessous. Sûreté, ordre, c'est ce qui permet justement eh bien, de sentir sécurisé. Il y a les besoins affectifs, d'ordre social, l'amour. Amen. Et nous savons que quand nous avons rencontré le Seigneur, nous sommes aimés. Même si le monde ne nous aime pas, le Seigneur nous aime. Puis également le besoin de respect et d'estime de soi-même. Parce que des fois, on a du mal avec ça. On se sous-estime. Et oui, donc on a besoin eh bien, de se respecter à ce niveau-là et de s'estimer justement à notre juste valeur. Il y a également le besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu, d'accomplissement, de devenir. Il y a également le besoin d'idéal. Alors bien sûr, l'approche chrétienne sur la manière de considérer ses besoins, eh bien, elle n'est évidemment pas celle du monde. Nous avons une autre approche. Quand je me suis converti, j'ai compris que j'avais besoin de remettre l'ordre des choses dans l'ordre que Dieu le veut, de reconsidérer les choses à la manière de Dieu, les priorités à la manière de Dieu. Ce qui me paraissait, moi, une priorité sur le plan physique, ne l'était pas pour Dieu. Donc il fallait que je reconsidère cela. Et je dirais que c'est dans la mesure où l'homme recherche en premier le royaume et la justice de Dieu que toutes ces choses vont lui être données par surcroît, comme le dit la parole de Dieu. Bien sûr, c'est dans la foi en Jésus que l'être humain trouve son véritable épanouissement. Certains disent « je m'épanouis dans telle activité ». Mais le véritable épanouissement, c'est dans la personne de Jésus. La vie spirituelle, elle doit passer en premier. Amen. J'ai vu en colo et en centre de vacances des enfants qui s'épanouissaient, qui recevaient dans les moments spirituels, dans nos soirées. Pourtant, il n'y avait rien, un torrent. C'est tout ce qu'il y avait, mais il y avait une présence de Dieu. Eux étaient ouverts. Et après, sur le plan humain, il n'y avait aucun ombrage. Tout allait bien. C'était, excusez-moi, le paradis sur la terre. Avec des ados, ce n'est pas facile. Hein? Eh oui, quand vous avez une flopée. Mais voilà, l'action du Saint-Esprit. Parce qu'eux étaient ouverts. Parce qu'ils étaient venus avec le cœur assoiffé. Eh bien, Dieu a pu se manifester et parler. Alors, c'est donc de cette manière que nous abordons ici, je dirais, la quête indispensable de sécurité, je dirais, au travers de certitudes. On va le voir ensemble. On sait une chose, c'est qu'il est très inconfortable de vivre sans assurance, hein, d'être livré à des doutes en permanence. Ça se traduit par de l'instabilité, l'absence également de paix intérieure et parfois une inquiétude qui est grandissante. Et ça, c'est terrible de redouter, ne serait-ce que l'instant suivant, le matin, le soir, la nuit, l'obscurité. C'est terrible, bien sûr. Alors, à sa manière, je dirais que la Bible appelle cela le doute. Le doute. Quand il y a le doute, eh oui. Jacques a traduit cette sorte de situation ainsi. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voyez, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître. On ne maîtrise rien, bien sûr. Hein? On est agité. Alors, le doute, bien sûr, peut concerner Dieu, soi-même, l'au-delà, la mort également, ce qu'il y a après, le présent, l'avenir, ce que les autres pensent de nous, etc. Il y a toute une liste que vous pouvez vous-même rajouter, si le doute, justement, vous a saisi. L'obtention de la paix passe par l'acquisition de la stabilité, qui vient justement de l'assurance que l'on possède. Amen. C'est le prophète Ésaïe qui dira ceci, Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, d'autres versions disent dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Quels sont tes sentiments vis-à-vis de Dieu ? Vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du salut qui t'a été donné, quels sont tes sentiments? Est-ce qu'ils sont fermes? Quelles sont tes dispositions à l'égard de celui qui est digne de confiance? Parce que tout est là. Ce texte nous montre que la paix, eh bien, elle va dépendre de la stabilité du sol, du terrain humain que nous sommes, ainsi que de la foi. Est-ce que j'ai réellement confiance? Est-ce que, malgré la difficulté, l'épreuve, est-ce que les hommes appellent, est-ce que j'ai confiance en celui qui dit, appuie-toi sur ma parole, fais-moi confiance. Il faut aussi un minimum de certitude, de stabilité dans les domaines matériels, affectifs, sociaux, spirituels. Pour dire le Seigneur est grand, il peut tout, il peut pourvoir dans ce domaine. Amen. Il est celui qui connaît mon cœur. Il va me donner, par exemple, celle qui me correspond. Amen. Celle qui va pouvoir également vivre à mes côtés. Dieu sait toutes choses. Le sol de notre nature humaine n'est pas ferme. Les circonstances de la vie, de l'éducation, n'ont pas toujours donné suffisamment, je dirais, de base, de certitude. Les épreuves difficiles de la vie ont pu déstabiliser, justement, bien des gens. Entamer, les certitudes qui était là. Et bien sûr, il y a la nature humaine, l'homme naturel, qui a souvent inversé, je dirais, l'ordre des priorités, la valeur des choses. Et de ce fait, l'instabilité est là. Le manque de certitude, le manque d'assurance. Enfin, je dirais que l'homme sans Dieu est une brebis errante qui cherche sa voie. Je vous ai passé par là, pour la plupart d'entre nous, nous sommes passés par là. Alors, il y aura toujours, bien sûr, un pourcentage d'inconnus à gérer dans la vie. Est-ce que vous savez ce que demain sera fait pour vous? Moi, je ne sais pas. Pour ma vie, et encore au moins pour vous. Alors, c'est peut-être à cause, justement, de cela que les hommes, eh bien, essaient, justement, de percer ce qu'on appelle les mystères de l'avenir en tentant de le deviner. Vous savez que Dieu a interdit ces pratiques, l'art divinatoire. Dieu interdit cela, il le condamne comme un péché terrible, bien sûr. Et puis également, qu'est-ce qu'on peut recevoir, sinon une série de mensonges. En plus, personne, je dirais, ne pourrait maîtriser la connaissance du futur, parce que le futur, il appartient à Dieu. Voilà pourquoi il faut se confier en lui. Demain, il sait ce que sera fait demain pour moi, pour toi, pour ta vie. Dieu propose aux hommes de plutôt lui faire confiance. Amen. Il s'agit pour chacun d'apprendre à assumer, je dirais, ses responsabilités, ses décisions, en consultant ce Dieu véritable, ce Dieu juste, ce Dieu bon. Amen. Je lui ai remis ma vie. Je lui ai dit, maintenant, Seigneur, tu gères, tu règnes. Tu me fais vivre ta vie. Amen. Et quand on vit comme cela, bien, on vit dans la foi. On avance parce que Dieu nous demande d'avancer. On s'arrête parce que Dieu nous dit, arrête-toi, ne va pas plus loin. Et on y croit. Parce qu'on a choisi tout simplement de placer notre foi, notre confiance en lui. Et une telle attitude, est-ce que c'est de ce qu'on appelle la passivité fataliste? Inch'Allah. Non. Je sais que Dieu règne. Je sais que Dieu gère toutes choses. Je sais que Dieu n'est pas dépendant des circonstances. Amen. Alors c'est important. Nous allons voir ici comment résoudre le problème des certitudes minimum que nous devons posséder pour justement vivre dans le repos, vivre en paix. Déjà, il est indispensable de reconnaître qu'admettre ce besoin n'est pas, un aveu déshonorant de faiblesse. Pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas honteux d'avouer justement que la recherche de certitude, ça fait partie de la condition humaine. Amen. Eh oui. Cependant, je dirais que une fois que le problème a été réglé, il ne s'agit pas de devenir aussi orgueilleux, arrogant. Eh oui. Prétentieux ou insolent. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu m'a été faite tout simplement parce que, il y avait l'humilité. Et il faut avoir justement cette humilité pour reconnaître justement envers Dieu ses qualités, les qualités de ceux qui ont trouvé en Christ leur assurance. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. C'est lui qui m'a aimé. Il m'a aimé le premier. C'est lui qui s'est révélé à mon cœur. Alors pour commencer, il faut, identifier les éventuelles fausses sources de sécurité, parce qu'il en existe. Alors une sécurité, par exemple, premièrement, basée sur le « moi-je ». Vous en connaissez qui agissent comme ça? Il ne suffit pas d'avoir une certitude sur quelque chose pour que cette chose devienne vraie. Mais toi de quoi, ça ne marche pas. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Vous comprenez? Ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça. La certitude ne crée pas la vérité, mais c'est la vérité qui doit créer des assurances et des certitudes. Et la vérité le porte un nom, Jésus. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le psaume 30, verset 6 et verset 8 qui dit « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. » Vous la connaissez comme ça? Moi, jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Formidable, j'étais sûr de moi. Verset 8, tu cachas ta face. Et là, je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi et j'ai imploré l'Éternel. Le psalmiste a compris. Tu es sûr de lui. Allez, tu ne me fais pas peur. Et puis, à un moment donné, comme il est dit, tu as caché ta face. C'est-à-dire, tu as pris un petit peu de distance avec moi. Ou tu as fait le sourd, tu as tourné le regard, et simplement cela a amené le trouble autour de moi, dans ma vie, dans mon cœur et dans mon âme. Je n'ai fait qu'une chose, j'ai crié à toi. Vous comprenez, vous saisissez ? Amen. Ce n'est pas le fait d'aller voir Pierre, Paul ou Jacques, c'est les apôtres, mais d'aller voir Denis, Marcel, Georges, ou Georgette. Mais c'est de tourner les regards vers le Seigneur. C'est de l'appeler lui. Amen. On sait que la Bible abonde en exemples de personnages qui ont placé justement à tort leur confiance en eux-mêmes, dans leur bien, ou je dirais leur position. Voilà, je suis monsieur un tel ou madame un tel. Alors, voilà. Et puis là, eh bien, ils ont commencé à sentir les limites à un moment donné. Ils ont commencé à sentir qu'ils n'avaient pas la réponse à tout, que bien des choses les dépassaient, qu'ils se sentaient submergés. Et à ce moment-là, la paix, parente qui était là, eh bien, a commencé à disparaître. Alors, ces fausses sécurités les ont abandonnées et ne leur ont apporté, je dirais, qu'un vain secours. Dans le psaume 20, verset 7, c'est le psalmiste qui dit « Ceux qui s'appuient sur leurs chats, ceux-là sur leurs chevaux, nous, nous invoquons le nom de notre Dieu, le nom de l'Éternel. » Amen. Nous invoquons. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, la mise en garde contre des faux raisonnements. Des fois, on raisonne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas raisonner. Mais il ne faut pas que ce soit des faux raisonnements. Nos questions doivent trouver leur réponse dans la parole de Dieu. Pas sur notre raison à nous. Parce qu'elle peut être trompeuse. Jacques va dire dans sa lettre, bien sûr, chapitre 1, versets 20 et 26, « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et puis le verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir par exemple sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme, elle est vaine. » Et des fois, devant Dieu, il faut garder le silence, aussi bien que devant les hommes. Si on veut que Dieu nous justifie, ce n'est pas nous en argumentant, mais c'est en le servant, le Seigneur, travailler dans notre cœur, dans notre âme, ou travailler le cœur de la personne en face de nous. Amen. Parce que des fois, on veut avoir raison. Et on veut tout prix. Troisièmement, certaines personnes pensent avoir une fausse assurance du salut. Elle est basée à tort sur des prétendus mérites ou sur des œuvres indûment supposées méritoires. Est-ce qu'on mérite le salut? Qui pense que le salut se mérite? Des bonnes actions, des ABA. Non, je ne mérite pas. La Bible me dit que c'est par grâce. C'est par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est un don. C'est le don de Dieu. Le prophète Jérémie dira ceci, Jérémie chapitre 9, verset 23. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Comme je l'ai entendu tout à l'heure, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs, tous rachetés par le sang de l'agneau. Personne ne mérite le salut. Amen. Mais une fois qu'on a acquis le salut, on va acquérir des certitudes. Amen. Il est Dieu. Et sans lui, je ne suis rien. Amen. Ah, peu de choses, parce que je suis quelqu'un quand même, mais peu de choses. Parlons maintenant des certitudes de base révélées par les Écritures et accordées justement aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Je dirais que c'est comme un cadre de référence à l'intérieur duquel s'inscrit la solution divine. Amen. C'est en Jésus, et uniquement en Jésus, qu'il y aura la réponse à tous nos problèmes. Les problèmes existentiels de la vie, ils sont là. C'est le Seigneur qui a la réponse, notamment justement à ceux qui concernent notre besoin de certitude. C'est lui qui va me donner des certitudes, qui va me donner de l'assurance.